Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 12 novembre 2021. Hier, c'était Veterans Day aux États-Unis, mais c'était aussi l'armistice en France. En gros, c'était une de ces journées au ralenti où l'on ne sait pas trop pourquoi on est venu. D'ailleurs, la performance des indices démontrait bien que l'ambiance était molle et ennuyeuse. Ce qui est bien, c'est qu'on a pu digérer la correction massive causée par les chiffres de l'inflation mercredi, regagner un peu du terrain perdu sur la tech, massacrer Disney et surévaluer encore un peu plus sur Rivian. On ne va pas se mentir, ce jeudi 11 octobre n'était pas la séance la plus fun du monde et il n'y a absolument pas de raison de la faire entrer au Hall of Fame des séances boursières, si le Hall of Fame des séances boursières existait. Nous avons donc pris notre temps pour analyser le fait que la bouffe devenait plus chère, que l'essence devenait plus chère, et ce même si le baril se traite à 81$ et a un peu rebaissé depuis quelques jours, sans compter que le coût du logement est également à la hausse, comme nous le disions hier. À partir de là, comme d'habitude, il y a deux camps qui s'affrontent. Ceux qui pensent que l'inflation est sous contrôle et que l'inflation est transitoire et ceux qui s'appellent Jérôme Powell. Et il y a ceux qui pensent que l'on va se faire démonter la tête par l'inflation et que ça n'est que le début et que dans 6 mois, il faudra une brouette de cash pour acheter un cheeseburger au McDo du coin et qui s'appelle Michael Burry. Le fameux gérant du Big Short est donc de retour sur les réseaux sociaux après s'être déconnecté puis reconnecté sur Twitter pour la 812e fois cette année. Et il n'est pas content. Personnellement, je ne suis un grand fan du personnage, mais je trouve qu'il a tendance à se comporter un peu trop comme un gourou permabère qui ne se pointe à la télé uniquement quand tout va mal et que l'on est en train de tirer sur l'ambulance. C'est en général toujours à ce moment qu'il choisit pour venir dire « Je vous l'avais dit sur Twitter ». C'est un peu comme Roubini qui ne sort qu'au 3e jour de baisse pour venir nous dire que oui, ça fait 12 ans qu'il me dit que ça va baisser, que oui, ça fait 12 ans qu'il est short sur le S&P, et que oui, il emprunte du fric à sa grand-mère pour moyenner à la hausse toutes les semaines. Mais il sait qu'un jour ça va vraiment baisser et que là, il aura raison. Burry est en train de faire pareil et que ça sent, ça le dessert parce que avant, on le croyait, hein, mais quand il débarque sur Twitter à chaque 0,5% dans le rouge et que dès que l'on fait un new high 3 jours plus tard, il annonce qu'il se déconnecte de Twitter et qu'il part ensuite en villégiature dans sa maison des Hamptons, au bout d'un moment, ça perd un peu de crédibilité. Bref, hier, on a parlé de l'inflation, mais c'était moins grave que mercredi et globalement, les marchés n'ont rien foutu. Hier aux States, il y a deux actions qui faisaient parler d'elles. Tout d'abord, il y avait Disney qui se faisait défoncer de plus de 7%. Tout ça parce qu'ils ont constaté un ralentissement des abonnements sur Disney+. Il est vrai que l'on peut comprendre que lorsque vous êtes fait 22 fois la totalité des films des Avengers et que vous avez noté tous les détails qu'il y a dans les scènes post-génériques et que vous avez appris par cœur les dialogues de Hulk, il n'y a pas de raison de rester que pour regarder en boucle les épisodes de l'oncle Picsou qui part en vacances avec Riri, Fifi et Loulou pendant que Donald est aux prises avec le cric de la voiture. Le titre s'est donc fait démonter assez méchamment, ce qui pesait sur le Dow Jones. Du coup, il y a des rumeurs comme quoi le management de Disney se demande s'ils ne vont pas se lancer dans la construction de voitures électriques. Je dis bien dans la construction parce qu'apparemment en ce moment il semble plus facile de faire de la performance en expliquant qu'un jour vous vendrez 1 million de voitures par année plutôt qu'effectivement les vendre. C'est en tous les cas ce que j'ai compris. Après l'IPO de Rivian, en tout cas de mercredi, on aurait pu éventuellement peut-être se dire que les gens allaient se rendre compte que c'était un tout petit peu débile de pricer des boîtes à des niveaux stratosphériques alors que la boîte en question n'a pas encore vendu plus de 100 bagnoles dans le monde. Mais en fait non. Non, il semblerait que les éventuelles probables perspectives futures de Rivian pour les années 2030 sont largement suffisantes puisque pour son 2e jour de trading, le titre a encore pris 22%, encore un tout petit effort ce soir et on pourrait dire que le titre a doublé depuis son IPO, même s'ils en sont toujours à 46 voitures vendues et que le pick-up vert que l'on voit dans les vidéos sur YouTube, c'est toujours le même. C'est assez étonnant parce que dans le genre nouvelle société de voitures électriques, il y a aussi Lucid qui eux vendent déjà plus de voitures et que l'on imagine comme étant le vrai concurrent de Tesla et que eux ils sont déjà moins valorisés que Rivian. Mais tout ça c'est parfaitement normal et il n'y a que moi qui trouve ça débile et dangereux. En tous les cas, avant que le château de cartes s'effondre, je voudrais juste dire que si des fabricants de voitures électriques se mettaient à faire des médicaments, on les valoriserait pour des thérapies qu'ils vont découvrir. Éventuellement, peut-être, contre un virus qui n'existe pas encore et qui sortira en 2029. Il y a aussi Elon Musk. Ouais, non. Bah, en fait, non, il n'y a rien à dire. Il y en a marre de parler de lui. Il a vendu pour 5 milliards d'actions. Il a roulé tout le monde dans la farine. Il continue de manipuler tout le monde sur Twitter. Et tout le monde trouve ça normal. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler d'Elon Musk. Et je décide donc que ce vendredi 12 novembre, c'est le No Talking About Elon Day. Et pour célébrer ça, il faut porter un pin en forme de doigt d'honneur à la boutonnière. En Asie, mis à part que le Japon qui monte de 1%, la Chine ne fait rien en attendant qu'Evergrande s'effondre une fois pour toutes. La société immobilière vient juste de s'en sortir encore une fois en ayant plus que chaud aux fesses. À force de jouer avec le feu, un jerrican d'essence, une bouteille de gaz qui fuit et des allumettes, ça va finir par leur péter à la figure et ce jour-là, on dira c'est pas grave parce qu'il n'y a pas de contagion. Et puis on apprendra qu'en fait le Crédit Suisse est surexposé à la dette immobilière et on y dira « Ah bah alors celle-là, on l'avait pas vu venir hein ». Un peu comme le subprime, la bulle internet, Archegos, la crise russe, la crise asiatique et Bernard Madoff. Du coup, je crois que la question, elle est vite répondue. Côté or, au pluriel, ça ne fait que monter du côté de l'or jaune et ça ne fait que baisser du côté de l'or noir. Le pétrole est à 81$ et l'or est à 1858. Oui, je sais, ça n'a pris que 7$ depuis hier, mais c'est pas une crypto-monnaie non plus. D'ailleurs, à ce propos, le bitcoin est à 65 000$ et l'Ether est de plus en plus considéré comme un hedge anti-inflation et se traite à 4 767$. Dans les nouvelles du jour, il y a Alibaba qui a annoncé plus de 80 milliards de ventes lors des journées, de la journée des célibataires. Et quand on sait qu'il y a encore Thanksgiving, Black Friday, Cyber Monday et Noël et la journée internationale des chasseurs avec un QI inférieur à 12, ça risque de faire encore un paquet de ventes pour Alibaba et JD.com d'ailleurs, parce que si on les met les deux ensemble, ils en sont à 140 milliards de ventes sur la journée. La nouvelle est bonne et techniquement, le titre Alibaba se présente plutôt bien et ça serait bien que Xi Jinping leur lâche un peu la grappe, mais ça reste quand même très compliqué dans la région. D'ailleurs, Xi Jinping fait parler de lui dans tous les coins puisqu'il est en train de renforcer son pouvoir sur le pays, qu'il va organiser un sommet virtuel avec Sleepy Joe dès lundi et que l'on s'attend à qu'il invite le président américain pour les vacances de ski cet hiver et pour les JO d'hiver avec Covid. On parle aussi de l'Inde qui revient en force après une chute massive des cas Covid ces derniers mois. Mais les experts ont la trouille parce que l'inflation a l'air d'arriver à toute allure et il semblerait bien qu'elle ne soit ni transitoire ni contrôlée. Autrement, il y a Toshiba qui va se splitter en trois compagnies, la mode GE est en train de frapper les conglomérats industriels, et puis pour terminer, les Allemands sont noyés sous les cas Covid et les hôpitaux appellent au secours. Visiblement, la saison 4 ou 5 n'est pas différente des autres saisons et il paraît que l'on peut mettre les épisodes dans le désordre, on comprend quand même. Côté chiffres du jour, nous aurons le CPI en France et en Espagne, mais je crois que pouvoir dire sans me tromper que mis à part les Français et les Espagnols, tout le monde s'en fout, il y aura aussi la production industrielle en Europe, les JOLTS aux USA et le Michigan Consumer Confidence qui va nous aider à peu près autant qu'un kayak au milieu du désert. Pour le moment, les futurs sont en hausse de 0,12% et on parle à peine de l'inflation annoncée mercredi parce que le plan de Super Biden va tout changer. La meilleure nouvelle, c'est que le week-end, c'est ce soir et que pour moi, il commence tout de suite. Bonne journée à tous, excellent week-end et merci d'être là tous les jours encore et encore. À lundi, très bon week-end.